Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la région de Tyr et de Sidon, et voici qu'une femme de cette contrée, une Cananéenne, sortit et se mit à lui crier, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée cruellement par un démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient en disant, « Donne-lui satisfaction, car elle nous poursuit de ses cris. » Alors il répondit, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais elle dit, « Pourtant, Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, il t'advienne selon ton désir. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, voici que nous avons entendu un évangile qui peut étonner, qui peut poser question quand on voit le comportement du Christ qui est tout amour et se comporter ainsi envers une étrangère, envers une Cananéenne, en disant clairement que elle n'a pas grand-chose à faire avec les enfants d'Israël et que lui, il a été envoyé pour les brebis perdues du peuple d'Israël. Aujourd'hui, on dirait facilement que cela est de la discrimination et on pourrait même dire que c'est du racisme. Mais il faut comprendre, derrière cela, ce qui se passe. Premièrement, ou probablement que c'est pour montrer justement que dans un peuple étranger, il peut y avoir une foi qui est très grande. Alors il faut comprendre aussi ce que est la foi. Il y a la foi en Dieu, la foi que même les personnes qui ne sont pas chrétiennes ont et peuvent avoir. Et puis il y a la foi dans l'histoire du salut, c'est-à-dire dans le fait que Dieu est devenu un homme, qu'il est mort sur la croix pour descendre en enfer, pour libérer l'humanité de la mort et lui donner la vie éternelle. Ici, je schématise évidemment en très court, mais et nous croyons aussi en un Dieu trinitaire, donc Dieu trinitaire et les deux natures, celle divine et humaine dans la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire dans le Christ, dans le Verbe de Dieu. Et donc, nous devons bien comprendre qu'il y a ces deux fois qui ne sont pas opposées l'une à l'autre et que souvent on a tendance à opposer l'une à l'autre en disant « Ah, mais moi j'ai foi en Dieu, ça suffit » ou bien de trop se braquer sur la foi dans les dogmes qui sont salutaires. C'est-à-dire que vous savez que si la foi qui a été établie par l'Église a été établie à travers les synodes dans toute cette dogmatique, dans toute cette pensée, eh bien, ce n'est pas pour décorer l'Église, ce n'est pas pour compliquer l'Église. C'est parce que c'est essentiel pour le salut, c'est-à-dire la Trinité comme étant, résumant la phrase de « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même », eh bien, c'est cela qui représente la Trinité dans le sens où il faut aimer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire que, comme le Christ disait dans une de ses prières dans l'Évangile de Saint Jean, qu'il soit un comme nous sommes un. C'est-à-dire que, vous aurez donc compris, la Trinité est l'idéal que nous devons essayer d'accéder en tant qu'homme, de voir dans l'autre notre prochain, voir l'image du Christ et voir nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que ainsi nous rentrons en communion. C'est-à-dire ce que nous célébrons à chaque fois à la liturgie, c'est la communion de tout l'être ecclésial, de toute l'Église. Donc, il y a ces deux fois qui sont, comme je vous le disais, non pas à réfuter l'une ou l'autre, et sont complémentaires et indispensables. Pourquoi est-ce que le Christ agit ainsi avec la cananéenne? Peut-être qu'il agit aussi parce que il se dit que les personnes qui sont en dehors de la foi juste, qui était à l'époque chez le peuple juif, chez les Hébreux, eh bien, il se dit que de toute façon, il n'y a rien à faire, que ces personnes n'obtiendront pas l'éveil spirituel et ne pourront pas s'approcher de Dieu et ne rentrer en communion avec lui. Et c'est peut-être souvent la position que nous avons dans l'Église, c'est de considérer et de mettre tout le monde dans le même panier, toute personne qui est en dehors du christianisme comme étant des mécréants. Et pourtant, ici, on a la preuve que même parmi peut-être les musulmans ou les bouddhistes, ou même peut-être les athées, parce qu'il y a des personnes qui se disent athées, mais qui ont la foi, qui se comportent en tout cas comme ayant la foi dans certains moments, eh bien, que ces personnes-là peuvent recevoir aussi la grâce de Dieu, peuvent recevoir la guérison. Et ici, nous en avons la preuve, il y a d'autres exemples dans l'histoire, mais cela nous fait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu uniquement des chrétiens, mais c'est un Dieu universel. C'est un Dieu universel. Et d'ailleurs, c'est ce que nous constatons et confessons lors du credo, que nous croyons dans une sainte Église catholique, c'est-à-dire universelle. Et nous pensons et nous sommes convaincus que, en réalité, tout le monde devrait être chrétien dans le sens où la vérité, la réalité est cela. Celle que nous confessons à travers notre foi, à travers tout ce que nous chantons dans les offices, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la lex orandi, lex credendi, la parole de la prière et la parole de la foi. Et donc, c'est cela que nous apprend aujourd'hui cet évangile, que nous devons aussi bien développer l'un que l'autre. Ne pas faire uniquement de la théologie pour approfondir notre foi, mais vivre aussi d'expérience avec Dieu. Apprendre à voir comme il est bon. Apprendre à voir comme lui seul peut nous aider. Lui seul peut nous sauver. Lui seul peut nous guérir en réalité. On a beau aller voir des médecins. Oui, évidemment, le médecin est utile. Je ne veux pas dire le contraire, certainement pas. Mais des fois, aucun médecin ne peut guérir parce que, à travers la guérison qui va se passer, Dieu veut manifester sa gloire, veut manifester sa présence. Et c'est le cas ici de la cananéenne. Sa fille était démoniaque, était démonisée, elle était possédée. Et personne, aucun médecin ne pouvait la guérir de cela. Seulement un esprit plus fort qu'un esprit démoniaque pouvait faire sortir ce démon, eh bien, c'était l'esprit divin, l'esprit de justice, l'esprit d'amour, l'esprit de vérité. Et c'est pour cela qu'elle s'est adressée au Christ, parce qu'elle savait que c'était un homme juste, c'était un homme qui ne faisait pas de compromis et qui était la vérité, qui disait la vérité, mais qui était la vérité. D'ailleurs, celui qui vit la vérité, il devient assimilable à la vérité et il commence à porter aussi cette grâce de Dieu et il commence à avoir aussi la force divine. Et c'est ce que nous avons entendu d'ailleurs dans la lettre de saint Paul à Timothée. Il disait, il commence sa lettre comme ça, qu'il doit être le porteur de la grâce divine, de témoigner de Dieu à travers tout, à travers les souffrances. Il dit même, ne crains pas à prendre les souffrances et ne crains pas à te focaliser uniquement sur le côté spirituel en laissant de côté les choses mondaines. Eh bien, ces lectures de saint Paul à Timothée, nous l'avons lu parce qu'aujourd'hui nous célébrons saint Charalambos. Saint Charalambos, qui est un grand martyr, beaucoup aimé parce qu'il a aidé énormément. Il réalise très rapidement, quand on invoque quand on lui demande de l'aide, l'aide est exaucée. Et Saint Kharalambos, c'est aussi de nouveau l'exemple de celui qui avait avant tout la foi. Pourquoi et comment est-ce qu'il a réussi à supporter toutes les souffrances qu'on l'a infligées, souffrances indicibles, enfin incompréhensibles, vraiment, je pense que c'est un des martyrs qui a souffert le plus. Eh bien, comment est-ce qu'il a réussi à supporter tout cela? C'est parce qu'il avait une foi inébranlable, parce qu'il était sûr que Dieu serait avec lui et que c'est effectivement la présence de Dieu en lui, c'est-à-dire la grâce dont nous parlions là, de la lettre de saint Paul à Timothée, cette grâce, eh bien, lui a donné cette force et a chassé non seulement tous les démons qui étaient autour de lui, mais même il n'était plus sous la nature déchue. Déjà, il était dans une nature angélique. Déjà, il portait la grâce divine en lui. Donc déjà, il avait dépassé la réalité terrestre de l'humanité déchue. Et déjà, il vivait quelque part dans les cieux. Il vivait déjà dans cette présence divine. Eh bien, voilà, c'est cela que aujourd'hui nous clarifions, que nous essayons de faire de plus en plus et apprendre, c'est de mettre notre confiance totale en Dieu et de recevoir en contrepartie cette grâce et ainsi d'avoir l'esprit qui s'illumine, qui s'éclaircit, non pas seulement dans la connaissance de Dieu au niveau empirique, mais aussi de la connaissance de Dieu au niveau intellectuel et philosophique et théologique. Voilà ce que nous apprend cet évangile d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire grandir cette foi, je dirais même ces deux fois qui sont complémentaires et non pas en opposition comme souvent on aurait tendance à le faire. Amen.